n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Je suis Charlotte, cofondatrice de Juillet, une agence événementielle dont la raison d'être est la rencontre. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir des femmes et des hommes qui, avec audace, ont choisi de vivre passionnément. Ce rendez-vous est une rencontre avec des personnes inspirantes et peut-être une rencontre avec vous, avec cette personne que vous serez demain. C'est la saison 3 de l'Instant Juillet, alors posez-vous, respirez, et puisqu'il n'y a pas de hasard, découvrez notre invité dont la rencontre bouleverse notre chemin, et pourquoi pas le vôtre. Il y a un peu plus d'un an, pour notre 23e épisode de l'Instant Juillet, nous avons fait la rencontre bouleversante de Safia Westphal. Ce fut pour nous un moment fondamental, des heures inoubliables. Lors de cet instant partagé, nous avons parlé de l'invincibilité que nous avions tous en nous, et des mots et des émotions qui nous liaient les uns aux autres, parfois même à travers les époques. Avec Safia, nous nous étions reconnus, comme nous avions eu le sentiment d'être liés à Albert Camus ou à Barbara, par exemple, et comme nous avons été bouleversés à entendre la voix et la poésie de Dina. Si ces deux premières références que je cite sont évidemment connues de tous, vous ne connaissez peut-être pas encore Dina, et c'est justement ce qui nous amène à ce 37e épisode, celui de la rencontre avec celle dont Safia ressent être la sœur et nous a proposé, avec une grande évidence, de nous présenter. Si la rencontre est au cœur de ce que nous créons au quotidien, si l'autre et l'émotion que sa découverte provoque nous guident à chaque instant, il y a peu de moments dans une vie où nous avons le sentiment de rencontrer quelqu'un que nous connaissons déjà. Alors c'est un épisode très intime que nous vous proposons aujourd'hui pour ce nouvel Instant Juillet. Safia, Dina, merci. Merci infiniment d'avoir accepté de partager avec nous cet Instant Juillet. Il n'y a pas de hasard. Alors qu'en cette semaine, j'ai vu apparaître sur une story de Safia, je suis émue, pardon, la citation d'Angelo de Pascalis disant « Nous ne sommes pas exactement ce que tout le monde voit, nous sommes ce que peu de gens trouvent et que très peu comprennent », je me suis tout de suite dit « Mais quelle chance incroyable j'ai d'avoir été comprise par cette femme ». Ah, je te vois émue, Safia, puis tu vois, je vais être émue aussi, donc... Il m'a paru alors évident que ce podcast devait raconter la beauté et la grandeur et l'importance de la rencontre et le rôle que celle-ci peut avoir dans le chemin d'une vie. Voilà, tu le sais. Alors avant même de se présenter, puis là je ne sais même pas si le podcast va continuer sur la ligne que j'avais prévue, mais j'aimerais que vous nous racontiez, vous, Safia et Dina, votre rencontre et surtout comment vous vous êtes reconnues.
D'abord, on te remercie beaucoup.
Merci.
On est vraiment très touchés on est vraiment très touchés par la justesse de ton introduction. La personne ne peut nous voir, mais on est en train de pleurer toutes les deux, ce qui est très symptomatique de nos identités et de ce qu'on partage en commun. Mais je vais te laisser un peu parler, ma beauté.
Ben oui, merci beaucoup. Je suis très émue. Je sais pas trop comment enchaîner du coup. Mais tout ce
tu
que t'as dit.
Coupé, ah ouais. C'est rare quand même, mais là tu nous as.
Ah oui, tu nous as coupé là.
Alors en fait, ce qui est assez fort dans la rencontre qu'on a eue déjà, Safia ensemble, et puis derrière la rencontre, alors finalement tu le sais pas Dina, mais tu partages ce que tu fais sur les réseaux et notamment tes chansons et tes textes, et Safia nous avait partagé ton compte et donc on l'a découvert. Et c'est toujours assez bouleversant de découvrir une artiste qu'on ne connaît pas, d'écouter ses textes, ses chansons et de se dire « mais c'est fou, ces gens qui nous ressemblent, qui sont loin, qui sont très différents de nous et qui nous touchent par ce qu'ils font ». Et donc tu sembles dire des choses assez intimes dans tes textes, pour autant qu'ils parlent à des personnes qui peuvent être différentes de toi, tu vois. Et donc voilà, c'était assez fort de se dire qu'on pouvait se rencontrer ensemble aujourd'hui et de partager ça. Et voilà, et quand Safia nous a parlé de votre rencontre, on s'est dit, c'est fou, vous êtes rencontrés aussi par hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard, mais...
Alors, notre rencontre, c'est une rencontre un peu 2.0 déjà, parce qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, sur Instagram, j'ai le droit de dire des...
Oui, bien sûr.
On n'est pas à la télé, c'est bon. Et oui, on s'est rencontrés... Alors, pour vous expliquer, un jour, j'avais mis une vidéo d'une reprise de Barbara, d'une chanson qui s'appelle Du bout des lèvres, que j'adore. Et j'ai vu apparaître un commentaire sous ma publication d'une certaine Safia Westphal qui me faisait des compliments magnifiques, qui me disait qu'elle avait été très touchée, comme rarement elle avait été touchée. Et j'ai lu ce commentaire, ça m'a mis les larmes aux yeux déjà, parce que bah, c'est rare qu'une autre, enfin, qu'entre femmes on se soutienne autant, enfin, d'avoir une femme qui... Enfin, moi c'était très rare pour moi, déjà je suis pas hyper suivie, et d'avoir une femme bah, comme Safia, parce que je suis allée voir son profil, qui me remarquait, je me suis dit waouh, c'est qui cette fille? Donc je suis allée voir son compte, et là j'ai été bouleversée, surprise, mais surprise dans le sens où je me suis vachement reconnue dans cette fille que je connaissais pas et dont j'avais jamais entendu parler pour le coup, parce que bah, moi j'étais en France, là j'étais à Paris, et en plus j'ai pas la télé moi, donc je vais très peu sur les réseaux sociaux, donc j'avais pas eu accès encore. Et j'ai été bouleversée, et je l'ai suivie, et on s'est suivie, et après je crois qu'on s'est écrit. Tu veux enchaîner? J'ai plus trop, j'ai plus trop la timeline, mais je crois qu'on s'est d'abord écrit sur Instagram.
Ouais, moi je trouve déjà qu'il y a un truc extraordinaire, parce que parfois il y a des éléments de vie qui peuvent relever de l'anecdotique, qui peuvent avoir une influence considérable sur toute notre destinée. Et c'est un peu le cas en ce qui concerne Dina et moi, parce que la publication en question l'avait sponsorisée. Il y a une possibilité sur Instagram de sponsoriser de façon à ce que les publications soient recommandées à des personnes qui pourraient potentiellement y être sensibles. Et pour le coup, l'algorithme que beaucoup de personnes décrit aura fait son travail avec beaucoup de talent. Et du coup, si Dina n'avait pas décidé de sponsoriser cette publication, peut-être ne l'aurais-je jamais vue et peut-être ne l'aurais-je jamais découverte, jusqu'au jour où elle deviendrait évidemment une grande star, parce que ça va arriver, évidemment. Mais je veux dire, en tout cas, intimement. Et du coup, ça a changé. Enfin, cette décision qu'elle a posée pour elle-même a bouleversé son destin et le mien. Et ça, je trouve ça déjà absolument extraordinaire. Et pour moi, ça relève pas du tout de l'anecdotique. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Je pense que là, c'est une belle démonstration de cette citation. Donc effectivement, moi j'ai commencé à échanger avec Dina sur les réseaux sociaux, et j'ai été bouleversée, parce que déjà, d'une part, parce que je ne supporte pas qu'on reprenne Barbara. Je trouve qu'elle a un talent, oui, et donc du coup je suis toujours très très énervée quand j'entends des personnes la reprendre de manière générale. C'est très rare quand je suis sensible à ça, et là c'est comme si j'entendais cette chanson pour la première fois. Et en plus, cette femme avait une grâce et une beauté absolue, et tout l'un dans l'autre, j'ai été complètement bouleversée. Et du coup, je lui ai dit, parce que je pense que c'est absolument fondamental dans notre société actuellement, parce que on parle souvent, et je disais ça à Dina au téléphone en arrivant, parce qu'on s'est appelé avant de venir, on s'entend beaucoup, et je lui disais, c'est fou parce qu'aujourd'hui, donc le jour où on enregistre ce podcast, c'est la journée internationale des droits de la femme, et il y a beaucoup de notions qui sont à la source du féminisme et du combat féministe. Alors, en ce compris la notion de sororité, qui devient presque une injonction. Aujourd'hui, il faut reconnaître les autres femmes comme étant des sœurs de combat, etc. Mais que signifie vraiment ce terme? Ben, je pense que déjà, il signifie la célébration des autres femmes, ça c'est très important. Pouvoir ne pas être précarisée, pouvoir ne pas avoir peur de leur beauté, de leur lumière, de leur talent, ne pas se sentir amoindrie, mais grandie.
Exactement.
Je trouve que ça, c'est déjà c'est une première chose de la notion de sororité. Et la deuxième chose, c'est cet amour d'évidence qui peut naître entre des femmes, au-delà de toute compétition.
Et c'est ça qui est effectivement le vrai combat, enfin quelque part, ouais. Quelque chose qui est vraiment changeant. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est vraiment à travailler pour nous, parce que je crois qu'on n'est pas habitué à ça. Et c'est ça quand tu dis, Dina, d'ailleurs, sur ton post, que tu dis, j'ai été étonnée, parce qu'en fait, j'ai un commentaire d'une autre femme qui me dit que je peux être, je ne sais pas les compliments qu'elle t'a pu sortir, mais talentueuse, brillante, peu importe les compliments qu'elle t'a dit, mais tu t'étais, un homme t'aurait dit ça, t'aurais peut-être été moins surprise.
Ah, mais j'aurais cru qu'il me draguait, voilà, clairement, on va être honnête.
Et tu t'es dit, moi, c'est une femme et
Non, vraiment, ça m'a surprise, et je crois d'ailleurs c'est une des premières choses qu'on s'est dites quand on s'est parlé après sur donc en privé. Et je lui ai dit je suis bouleversée et je suis étonnée, ça m'arrive jamais en fait qu'une femme, en plus une femme que je commençais à admirer parce que je suis allée voir ce qu'elle faisait, et je me suis dit waouh, elle, avec son talent, sa classe, son élégance, elle aime ce que je fais, ça m'a un peu surprise, quoi. Et oui, c'est rare, c'est hyper rare, et surtout dans le milieu de l'art qui est très compétitif, où je sais pas pourquoi, mais on nous pousse dans cette espèce de compétition à être mieux que l'autre et à ne pas célébrer l'autre, à ne pas dire à l'autre qu'elle est ce qu'elle fait, c'est bien, qu'elle a du talent. Et voilà, ça m'a beaucoup surprise. Et après, on a continué à parler. J'ai acheté son livre, L'encre de nous-mêmes, petite promo placée. Et je l'ai reçu, je l'ai lu d'affilée, je l'ai lu d'une traite en fait, un après-midi. C'était plus le confinement, hein, pour vous dire. J'étais pas enfermée chez moi à rien faire, mais je me suis embarquée dans son livre et j'ai tout simplement adoré, quoi. Je crois que je t'ai envoyé un message directement après. Et voilà, l'histoire a débuté comme ça, jusqu'à ce qu'elle arrive à Paris. Et oui, il y avait une évidence. Moi, dès que tu m'as écrit, dès qu'on a commencé à se parler, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui était écrit. Tu vois, on est assez superstitieuses toutes les deux. Et ça peut faire un peu nier. Je sais pas si c'est nier ce que je raconte, mais c'est le cas. Enfin, il y avait quelque chose où, enfin, moi, en tout cas, je me suis dit, c'est écrit. Il faut qu'on se rencontre. D'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'avais l'impression que j'allais à un date. C'était trop bizarre. Il n'y a jamais eu de drague entre nous, hein, vous inquiétez pas.
Non, mais c'est vrai qu'il y a eu il y a un rapport d'amour, parce que donc, moi, je vivais en Belgique la première année de mes chroniques, et quand j'ai commencé les exercices de nature artistique. Et puis, je me suis installée à Paris, du coup. Et c'est très, très dépaysant, et c'est une expérience très particulière, parce qu'en fait, notre vie se révolutionne, tout change, on perd ses accroches. Nos seuls points d'ancrage sont essentiellement professionnels et en l'occurrence artistiques. Mais moi, j'ai développé des amitiés très longues et très fortes avec des femmes qui font partie de ma vie depuis plus de 20 ans et depuis que je suis enfant, du coup. Ou adolescente, ou jeune adolescente, mais au moins 15 ans. Et avec Dina, en fait, j'ai pas eu besoin de construire l'évidence, en fait. Parce que l'évidence, elle se construit très souvent. Là où on pense qu'elle est fulgurante, pas toujours. Parfois, l'évidence se construit. Et avec Dina, j'ai pas eu besoin de la construire. Ça a été immédiat. Et c'est pour ça que je crois qu'au-delà du lien d'amour qui peut lier un homme et une femme, ou une femme et une femme, un homme et un homme, dans la perspective amoureuse, on peut rencontrer une âme sœur dans une perspective purement amicale et sororale, employons ce terme. C'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai rencontré mon âme sœur, en fait.
C'est-à-dire de se dire, ouais. et moi, j'avais trouvé ça assez fou, parce que souvent, en tout cas, moi, j'avais cette impression qu'on peut se rencontrer quelqu'un, un artiste, qui, est là, souvent, n'est pas un contemporain. C'est-à-dire de découvrir un livre d'un grand auteur, et finalement, en lisant, se dire « Ah, c'est fou ce qu'il a écrit, il y a peut-être 100 ans, il y a peut-être 200 ans, et je me reconnais. » Et donc, on trouve ça extrêmement brillant, talentueux, le génie artistique de cet écrivain qui a écrit peut-être il y a 300 ans un texte qui, finalement, nous parle même encore aujourd'hui. Et je trouve, finalement, en tout cas, j'avais pas eu ce sentiment d'avoir comme ça ce partage avec quelqu'un finalement qui est contemporain, que tu peux rencontrer. Et à la fois, on avait, nous, ce stress, en tout cas, nous, quand on avait contacté Safia sur les réseaux, on lui avait dit « Ah ouais, tes chroniques, ça nous a beaucoup inspiré, etc. » On s'est dit « Elle va le lire, elle va jamais répondre, la nana, elle est chroniqueuse à la télé, elle a autre chose à faire que de répondre à des gens sur Instagram. » Et là, on voit qu'elle lit notre message, qu'elle nous répond dans nos échanges, qu'elle comprend ce qu'on veut dire. En tout cas, voilà, comme on se sent lié sur un truc où on a la même façon, peut-être les valeurs ou la façon de voir le monde ou je sais pas. Et donc, on se dit, ah, faut qu'on se rencontre. Et là, sans mentir, avec Cédric, on était en stress, la première rencontre, de se dire, en fait, on va la rencontrer. Et genre, tu sais, comme quand tu rencontres une grande vedette, t'es déçue de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois la personne, mais... Ah ouais, mais en fait, non, ça va pas du tout. Elle est pas... Tu sais, c'est pas du tout la personne... Elle est cool à la télé, mais en fait, tu la vois en vrai, ça va pas du tout. Et en fait, je sais pas, on s'est rencontrés, c'était assez émouvant, tu vois. Ouais. Puis encore là, tout à l'heure, tu vois, on avait les larmes, mais c'était assez bizarre de se voir. C'est un peu ce que tu dis, comme t'as l'impression d'avoir un date, mais tu rencontres et tu sais pas comment ça se passe. Mais tu sens qu'il y a un lien et c'est pas explicable, alors... Ouais, quand tu dis l'évidence qui se construit, mais ouais, c'est assez... C'est ça, et c'est assez bizarre parce que mais tu sais pas l'expliquer, tu sais pas le dire. Ouais. Et donc après, même raconter ça à quelqu'un, tu sais pas le raconter. Je sais pas, ouais. C'était, voilà, c'était sympa, c'était normal, c'était, mais en même temps
c'était indicible.
Ouais, et en même temps c'était bouleversant, en même temps ça change tout, en même temps ça va m'amener sur un chemin différent, mais je peux pas te dire pourquoi. Ouais, c'est assez fort ce genre de choses.
Ouais, je trouve que c'est vraiment trop beau ce que tu dis. Alors c'est le tour de Dina, mais j'ai vraiment un truc à dire. Mais je vais quand même essayer de pas être trop prolifique parce que je sais que j'ai une propension à l'être. Mais il y a deux choses, enfin ça m'évoque deux choses, ce que tu as dit. D'une part, quand tu dis que lorsqu'on lit un auteur qui est décédé ou qui a écrit il y a 200 ou 300 ans, il y a un caractère de proximité qui peut se distiller de façon immédiate et c'est complètement ahurissant, alors même qu'il est plus là, mais qui survit grâce à la force de son art et grâce à son aptitude à nous bouleverser. Moi, je sais qu'il y a des grands comme ça pour moi, en ce compris Brassens, en ce compris Ferré, en ce compris Brel, Barbara. Et il se trouve que dans l'univers artistique actuel, il y a deux femmes qui, chez moi, suscitent ce sentiment de me confronter à la grandeur alors même qu'elles sont à portée de cœur. Elles sont là, elles sont à portée de cœur, elles sont à portée de main, elles sont tangiblement encore dans la sphère de mon présent. Il y a Barbara Pravi et il y a Dina. Et je trouve qu'elles ont chacune de façon très très différente.
Barbara Pravi, c'est la chanteuse qui a fait ça, l'Eurovision. Hein,
voilà, ouais. Mais qui a fait Voilà d'ailleurs, mais c'était pas. Oui, voilà. Et elles ont de façon très différente l'une et l'autre, mais cette aptitude extraordinaire à s'inscrire dans une temporalité et à la bouleverser. Au même titre que les grands. Et finalement, c'est ça qui est fantastique quand tu dis... en fait, c'est génial, c'est grisant, parce qu'elles sont là, quoi. Enfin, et c'est pas quelqu'un... Donc, on peut seulement se figurer. On peut potentiellement rentrer en contact.
Oui, ou l'idéaliser, ou tu vois, te dire, fantasmer un truc, de dire cette personne devait être vraiment fantastique. En fait, peut-être pas, tu sais pas. Mais...
Et c'est terrible, en fait, parce que... Moi, de par mon métier, j'ai expérimenté des situations comme ça. De rentrer en contact avec des personnes qu'initialement j'admirais et qui en définitive se sont avérées non pas décevantes, parce que personne n'est décevant, chacun est ce qu'il est, mais il ne correspondait pas à la figuration que j'en avais, tout simplement. Mais quand ça coïncide, il y a quelque chose, et quand tu parles de cette façon de moi, je me sens profondément honorée et je ne peux que te retourner cette analyse, parce que même si j'ai pas eu accès à vous de par la sphère médiatique et que du coup j'avais pas pu me figurer une identité avant de vous rencontrer, il y a eu par contre cette sensation de proximité immédiate que je trouve super belle et super rare. Et c'est pour ça que je suis là une seconde fois aujourd'hui, en dépit du fait que je suis très fatiguée.
Exactement, et t'as un emploi de temps de fou.
Mais que pour vous, voilà. Mais maintenant, je te laisse, ma chérie, prendre le relais.
Merci beaucoup. Mais merci pour tes mots. Hein, mais je suis toujours très honorée, très touchée quand tu parles comme ça de moi. Mais je sais en plus que tu le penses. Et moi, ça me met toujours dans une position où je me dis, mais j'ai pas l'impression qu'elle parle de moi, parce que moi, je me sens pas être comme ça, que j'ai pas fait beaucoup de choses encore, que finalement, ce dont elle vous parle, les chansons dont elle a accès, il y a que elle qui a accès, parce que pour l'instant... Mais ça me bouleverse et j'admire cette capacité qu'elle a, que tu as, à mettre vachement ta pudeur de côté quand tu parles des gens. Et je trouve ça assez incroyable, parce que moi je l'ai pas ça. Enfin, je sais, j'arrive à célébrer les gens, à leur dire quand j'aime ce qu'ils font, mais j'ai quand même une pudeur sociale, peut-être. Toi, tu n'as pas de pudeur tout court et encore moins de pudeur sociale. Et pour dire aux gens... que tu les aimes et ce que tu penses. Moi, c'est vrai que j'ai un peu plus de pudeur, donc j'ai un peu plus de mal. Mais déjà, tu sais que je t'aime et tout ce que je pense de toi. Mais je suis très touchée et c'est très... c'est rare, encore une fois.
Mais peut-être que c'est ça, le sens. Peut-être que, justement, t'as besoin qu'elle soit là, tu vois, pour justement te pousser à enlever un peu cette pudeur, en tout cas, et t'annoncer les choses et t'amener sur un chemin différent pour aller plus haut. Tu vois.
Clairement, c'est mon agent artistique maintenant. Non, mais il n'y a rien, il n'y a quasiment rien qu'elle n'écoute pas avant. Et inversement, tu me fais souvent lire avant, ou tu me montres très très souvent avant ce que tu vas sortir. Et c'est très agréable aussi, parce que autant, oui, on se fait beaucoup de compliments et on se célèbre beaucoup, mais quand on n'aime pas, on se le dit. Et ça, c'est rare aussi, parce qu'on peut des fois avoir des amis autour de nous qui vont nous brosser vachement dans le sens du poil et qui vont pas oser. On n'ose pas toujours dire à nos amis hein, quand on n'aime pas forcément ce qu'on fait. Et nous, on ose. Nous, on se le dit.
Je pense que ça, c'est lié au fait que pour partir de Dina et moi, mais arriver à une perspective plus généraliste, je pense qu'il y a une différence fondamentale entre le fait d'apprécier le travail de quelqu'un, son art, et d'aimer une personne dans une perspective amicale, mais pas indifférenciée, mais un peu distanciée, avoir des amis, vouloir qu'ils réussissent, être heureuse pour eux, etc. Et puis aimer tellement quelqu'un, et croire tellement en cette personne, qu'on a une exigence qui est telle qu'on ne peut pas lui dire que ce qu'il fait toujours à la hauteur de ce qu'il pourrait produire.
C'est ça, parce qu'en fait, tu le mets tellement à un niveau élevé, ou en tout cas, tu te dis que tellement il peut faire plus, que tu peux pas le laisser s'installer dans une médiocrité ou quelque chose
qui ne correspond pas. Ou en tout cas, quelque chose qui... Médiocre, elle ne le sera jamais. Mais par contre, quelque chose qui serait pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait potentiellement réaliser. Pour deux raisons. D'une part, parce que dans la vie humaine, l'élévation est extrêmement importante et à plus forte raison, celle que l'on peut apporter aux gens qu'on aime. Mais de surcroît, parce que dans le milieu artistique, la compétitivité est très importante, que la possibilité de véhiculer une œuvre artistique et de capter l'attention des gens, elle est furtive. Elle n'est pas seulement petite, elle est furtive. Il faut réussir à se saisir d'un moment et à le transformer en micro-éternité, comme je le défends. Et ça, c'est très, très, très compliqué artistiquement. Et pour ça, il faut que ce qu'on livre et ce qu'on offre soit à la pointe de nous-mêmes et ne dévie pas ou... Par exemple, dans certaines images que j'ai vues d'elle sur un clip qui s'est tourné et qu'elle sera amenée à sortir à un moment donné, les premières rushes, les premières images, l'aura qu'elle véhiculait était à côté de son aura véritable. C'était pas elle, c'était pas sa grâce, c'était pas son charme, c'était pas sa pétillance. Je pense que c'est un néologisme, que ça n'existe pas, mais c'est pas grave. On s'entend, tu vois. C'était pas son truc un peu berquinien, tu vois, la Françoise Hardy, enfin, tu sais pas trop. C'était pas ça. C'était presque quelqu'un qui était désolé d'être là. Et ça, c'est pas elle, du tout, du tout, du tout.
Oui, parce que peut-être mal à l'aise sur le tournage.
Mais
ouais.
Alors même qu'elle n'est pas du tout mal à l'aise face à une caméra de manière générale, mais là, le contexte était tel que voilà. Et en fait, c'était quand même déjà monté, quoi. Enfin, on était quand même sur un produit quasiment abouti. Et je lui ai pas dit tout de suite. Mais après, je l'ai rappelé. Pour lui dire, écoute, il faut que je sois sincère avec toi. C'est pas toi, en fait. Et c'est pas grave si on se propose au monde et si on propose notre art au monde et qu'il ne l'accueille pas comme on le voudrait. À partir du moment où on est absolument certain d'avoir proposé ce qui est absolument et adéquatement notre identité. Mais je peux pas la laisser proposer autre chose que ça. Donc voilà mon exigence. Et ça, je pense que si on s'élève, si on s'extirpe, si on s'affranchit de notre situation donnée et qu'on va vers une généralité plus large... C'est ça aimer les gens, c'est ça aimer à en crever, c'est ça aimer au péril de soi-même, c'est rompre la tranquillité, parce que la tranquillité d'esprit c'est dire ah c'est super,
mais, oui.
Mais aller au-delà et dire tu es absolument merveilleuse mais il faut que tu coïncides davantage avec toi-même, je trouve que ça, il faut vraiment aimer quelqu'un pour pouvoir le faire et nous on s'aime suffisamment, on s'aime de cette façon-là.
Oui mais c'est le retour, c'est que toi tu es capable de lui dire... Mais aussi, du coup, elle est capable de l'entendre. Parce qu'attention, il y a aussi ce retour-là.
Oui,
c'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable aussi de te dire « Ok, elle me le dit. C'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est pas parce qu'elle est malveillante, c'est pas parce qu'elle a envie, je sais pas. Non, c'est parce que vraiment, elle le fait pour moi. »
Ah, mais déjà, donc, jamais je ne pourrais douter de la bienveillance
oui,
de ça.
Oui, mais c'est la base, tu vois, de la relation.
Oui, c'est vrai, mais ça, c'est super important. Mais... C'est vrai que certaines choses, je les accueille pas bien quand ça relève de la critique.
C'est ça.
Selon que ce qui me le dit et la perspective de bienveillance. Et nous, on sait tellement qu'on est en safe place de bienveillance qu'on peut tous dire, c'est clair.
Et ce qui est drôle, c'est que quand elle m'a rappelé pour me dire ça, elle m'a enlevé comme un poids. C'est très bizarre ce qui s'est passé en moi. Parce que je me suis dit, ah ok, elle vient de mettre le doigt sur quelque chose. Moi, je ressentais un malaise par rapport à ce clip. Et je savais pas vraiment ce que c'était. elle me l'a dit, elle m'a mis le doigt sur quelque chose en fait. Et elle m'a peut-être sauvée d'un truc parce que finalement j'ai retourné des images, donc voilà, c'est pas ces images-là qui vont sortir. Et je me suis dit, c'est vrai, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle doit m'aimer et qu'est-ce que... C'est, comme tu dis, c'est ça, aimer les gens en fait, c'est oser leur dire, et des fois ça fait pas plaisir, hein. Des fois ça fait mal à l'ego. Enfin, quand on se dit, écoute là, tu peux faire mieux, c'est dur.
Après, c'est vrai que pour toi ça aide aussi, parce que on peut l'avoir sur d'autres contextes, et parfois t'emmènes, si t'es pas seule sur ce clip, t'as forcément des techniciens avec toi, des gens qui ont travaillé pour toi, etc. Et parfois, si même toi tu te sens pas à l'aise dans l'image qui est donnée de toi, mais tu vas dire, ouais, si je le dis, en plus je sais pas comment je le verbalise, je sais pas trop ce qui va pas, et il y a des gens qui ont bossé pour moi, donc est-ce que je vais oser faire un petit peu ma diva à dire, ouais, mais, et en fait c'est ça, alors que là tu te dis, ouais, mais en fait les gars là c'est autrement, c'est que ma copine en fait, qui est vraiment même fort et qui est attentive à ce que je fais, elle me dit que ça va pas, donc j'ai plus de confiance à vous dire qu'il faut refaire, je suis désolée, mais parce que ça va pas. Clairement. Et t'aurais peut-être pas eu, tu vois, cette force de le dire, d'où l'importance, tu vois, du lien.
Et du regard extérieur bienveillant, en fait, finalement, je pense que qu'on en a tous besoin. Je trouverais ça triste de pas en avoir du tout.
Parce que du coup, t'es pas seule, quoi.
Pas seule, et dans ce milieu artistique qui est hyper dur, moi, je pense que j'arrêterais. J'aime la musique et j'ai envie de continuer, j'ai envie de réussir, mais si j'étais pas entourée de... deux, trois personnes bienveillantes, d'une famille bienveillante. Je sais pas si c'est possible de continuer comme ça. Enfin, en tout cas, j'admire ceux qui y arrivent. Vraiment.
C'est chouette. C'est vraiment chouette. Et nous, tu vois, c'est quelque chose qui va nous porter parce que on l'a évoqué un petit peu avant. Alors, on n'est pas des artistes en tant que tels. On crée des événements et pour, nous, en tout cas, notre façon de travailler, ce qu'on avait envie de faire, c'était de créer des émotions. En tout cas, de proposer des instants vécus aux personnes. C'est-à-dire au-delà d'organiser une fête. Si je veux vraiment banaliser le truc, on organise des fêtes. Ok, c'est cool. Non, nous, l'idée, c'était vraiment d'amener des gens à se rencontrer, à vivre un instant. Que quelque part ça leur crée des souvenirs et pourquoi pas ça leur permet des rencontres qui bouleversent leur chemin, changent leur direction, etc. Et en fait, quand je réfléchissais moi aux inspirations que j'ai, c'est toujours des inspirations artistiques, que ce soit des auteurs ou des compositeurs, des musiciens, des chanteurs, peu importe. Et souvent, moi je trouve, c'est mon goût à moi, hein, que les plus belles chansons, en tout cas les chansons qui m'ont le plus touchée, et notamment il y en a énormément de Barbara, sont des chansons qui sont assez triste, profonde, mélancolique, sur vraiment des situations qui ont été difficiles dans sa vie et qui l'ont amenée à, du coup, vraiment prendre beaucoup de recul, aller au fond d'elle-même et pouvoir sortir des textes qu'on sent, ils sont imprégnés de choses un petit peu fortes parce que bouleversantes et bouleversantes, un peu tristes. Et c'est assez en contradiction avec ce qu'on crée, qui sont... on espère, et en général c'est le cas, des moments assez joyeux, de rire, de partage, de moments de vie vraiment heureux. Et pour autant, quand on échange avec des clients, ça va être long ma question, hein, mais quand on échange avec des clients qui nous font un retour de dire « Ah, c'était vraiment merveilleux, etc. » Alors, ils vont pas nous dire « Le traiteur était très bon. » Oui, le traiteur était très bon. Bien sûr, le lieu était magnifique. Oui, le lieu était magnifique. Mais ils vont nous dire « Voilà, j'ai rencontré telle personne, j'ai discuté, on a rigolé, etc. On a partagé un moment. » Et souvent, parfois, il y a des larmes, ou en tout cas de l'émotion. Et je me dis, c'est quand même incroyable ce côté de les plus beaux moments de notre vie, ou les moments les plus heureux. Il y a quand même toujours quoi, une espèce de bascule sur une émotion qui va aller chercher des choses un petit peu intenses. Et bref, je vais en venir à ma question. Comment on arrive à être, à créer des textes, à créer des mélodies comme tu peux en créer, comme quand on entend ou à chanter, qui sont à la fois hyper intenses, on sent qu'il y a des choses vraiment mélancoliques, vraiment, j'irais pas jusqu'à dire douloureuses, mais des choses qui sont portées, qui sont ancrées, et en même temps on sent derrière quand même une force de vie et un optimisme pour avancer ensuite. Et je sais pas comment on arrive à faire ce lien entre les deux intensités, quoi.
Ouais, je vais te répondre honnêtement et ça va peut-être te décevoir, je sais pas.
Mais je suis sûre que, en mais fait, c'est incroyable que tu me dises ça parce que c'est exactement ce que je réponds tout le temps, je sais pas comment on fait ça.
Je sais pas, enfin, je peux parler que de moi pour le coup. moi, quand j'écris une chanson, j'ai l'impression que ça vient d'ailleurs. Enfin, c'est un truc qui tombe d'un coup et je suis pas quelqu'un qui, et c'est peut-être un défaut d'ailleurs, je suis pas quelqu'un qui passe des semaines et des semaines à retoucher des phrases ou quoi que ce soit. Ben non, ben moi souvent, j'ai ma grand-mère au téléphone, j'ai une copine qui passe ou je viens de vivre quelque chose et ça sort tout seul. Et après, je me mets à mon piano et ça sort tout seul aussi et je suis peut-être un très mauvais exemple pour ça, je sais pas.
Non, c'est agaçant parce que tu sais, je vais te dire un truc, Safia, c'est exactement ce qu'on entend, tu sais, sur les grands génies. Je vais te dire les Freddie Mercury ou ces mecs-là qui disent « Ouais, non, mais cette chanson, je l'écris en 10 minutes sur un... » Ouais, d'accord. Alors nous, du coup, on galère. Moi, je vais te dire, quand j'écris des textes sur Instagram, je vais peut-être mettre, tu peux demander à Cédric, peut-être mettre une demi-heure à écrire un texte où je réfléchis ma phrase. Après... C'est injuste, ça, je suis
non,
très
non, mais
aussi.
Après, attends, pour moi, je trouve, hein, pour un bon texte que je peut potentiellement faire, il y a 30 trucs nuls qui sont passés avant, parce que des fois il y a des éclairs, des espèces d'éclairs de non-génie, où il y a quelque chose qui sort et qui est juste nul. Hein.
Parce que moi, mon téléphone, il est plein de notes que j'écris, des phrases que j'écris,
aussi, hein.
Et des fois je me réveille la nuit, je vais écrire une phrase et je me dis, ah, génial, je me réveille, ah, faut que je l'écris sur mon téléphone. Et le lendemain, je me lève, je regarde la phrase, je dis, ah ouais, belle grosse nullité sur ce téléphone.
Non, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de créateurs, en fait, ça. Et pour le coup, je suis pas totalement d'accord avec les... oui, des gens comme Freddie Mercury, c'est des génies, je suis totalement d'accord, mais je suis pas sûre que ça venait non plus comme ça. Je pense que Bohemian Rhapsody, c'est des semaines de travail, d'harmonie, de... C'est... Peut-être que le premier G, il vient vite. Après,
oui, derrière, c'est ce que t'en fais. C'est le travail, voilà, que tu déclines.
Derrière,
ensuite,
hein. C'est Brel qui disait non, que le talent, c'est pas grand-chose, finalement. C'est le travail, c'est l'acharnement qui compte après, parce que...
Bah, peut-être du coup aussi les gens que tu as autour, parce que finalement c'est ce que tu dis, autour. C'est-à-dire que tu vas commencer à écrire quelque chose et si t'as pas des gens autour qui te disent « Ah là tu tiens quelque chose
oui. »
ou « Là développe peut-être ça » ou « Là ça te ressemble ou pas ça » et peut-être que ça
clairement,
te permet aussi d'avancer.
Clairement, et je pense que, et ça c'est cool, des gens qui ont du talent, il y en a beaucoup. Je pense vraiment qu'il y en a beaucoup. Et c'est une très belle chose d'ailleurs, bravo l'humanité, on a du talent et continuons. Après, avoir du talent, ça fait pas tout quoi. Et la preuve, si tous les gens qui avaient du talent réussissaient à faire ce qu'ils veulent faire, bon, y aurait beaucoup d'artistes. Hein.
Mais du coup aujourd'hui, donc, toi t'es chanteuse, auteur, compositeur.
Compositrice, ouais.
Auteur, autrice,
on dit. Oh, moi je préfère auteur.
Compositrice, interprète.
Est-ce que
du coup tu en vis aujourd'hui, c'est ta profession?
Alors je vis de la musique, oui, parce que je donne des cours de chant à côté, voilà. Mais je vis pas, non, je ne vis pas. Bah, en même temps, j'ai pas sorti beaucoup de chansons encore, donc je peux pas en vivre. Enfin, ce serait un miracle. Ça voudrait dire que j'aurais sorti un tube incroyable.
Enfin, quand on écoute Safia, tu vas finir par en vivre, donc ça va, on est tranquille.
Oui, Safia, elle est trop adorable et on s'aime trop, mais...
Un élément qui est important, c'est que je l'ai admirée avant de l'aimer. Parce que tu sais dire de ta copine, hein, elle est trop de talent, elle est vraiment
non, en
super
fait,
douée.
Toi, c'est devenu ton amie après que tu l'aies rencontrée, après
mais
que tu
oui.
aies découvert son art.
Mais absolument,
c'est différent.
Et elle aussi, pareil. Je veux dire, quand elle dit que j'ai du talent, je sais... Et je sais qu'elle le pense, parce que non pas que les personnes qu'on aime et avec lesquelles on a évolué antérieurement à nos vies artistiques... n'ont pas d'objectivité, mais il y a quand même une propension à potentiellement valoriser le travail de quelqu'un à l'aune de l'humanité qu'on lui connaît. Et elle, je l'ai admirée avant de savoir si c'était une garce ou quelqu'un de bien. mais je savais que c'était pas une garce parce que son humanité transparaît dans son art. C'était juste pour la formule, j'aimais bien. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Dina, je l'ai vraiment d'abord admirée. Et c'est pourquoi je... Parce qu'on se pose toujours la question. Quand, à l'inverse, on admire des personnes que l'on aime profondément, de savoir quelle est l'objectivité de notre regard et quel est notre recul. Mais avec Dina, je sais. Quand il s'agit de Dina, je suis absolument persuadée d'être dans une sorte de subjectivité objective qui est délicieuse. Et c'est rare et c'est fantastique. Et oui, et à l'inverse, c'est vrai qu'elle est un indicateur pour moi parce que Dina ne me dit jamais « c'est dégueulasse », mais elle me dit parfois c'est cool. Tu vois, comme quand la photo, elle a regardé la photo que Cédric a fait de moi tout à l'heure, elle a dit ouais, elle est bien. Mais, et alors, oui, mais non, mais je sais que si elle ne me dit pas mon cœur, tu es absolument magnifique, c'est qu'on n'est pas à un niveau, non pas que je suis magnifique, mais Dina a ce regard-là sur moi. Mais pour parler, pour sortir des considérations esthétiques et parler vraiment de l'art en tant que tel, voilà, je lui envoie un. Je me rappelle que je lui avais envoyé l'introduction d'un livre. Et elle m'avait dit, c'est cool. Et j'étais mal, quoi. J'étais mal, vraiment. Je me suis dit, putain, si elle me dit que c'est cool, c'est que c'est vraiment très mauvais, quoi.
C'est drôle ce que
tu dis,
parce que tu vois, c'est un échange textuel. C'est-à-dire que tu la vois pas, c'est pas un échange de voix, mais c'est juste à l'écrit, tu vas reconnaître le fait qu'elle t'écrive, c'est cool.
Ouais,
non. Tu sais sur l'écrit que c'est
ça. Mais je me demande si elle m'avait même pas fait un vocal, à vrai dire. Mais elle m'avait dit, c'est cool, j'aime pas trop, moi, les introductions, c'est pas un truc que je préfère dans les livres. Mais ça va, c'est cool et tout, c'est bien. Bah, cette introduction, je l'ai réécrite, quoi. Je l'ai réécrite de bout en bout. Et maintenant, elle m'a dit qu'elle l'adorait. Et maintenant, je sais que... Mais voilà, et c'est comme ça que je jauge. Et j'accepte ça d'elle. Je l'accepte pas de tout le monde, non pas parce que... on est aussi... Alors, moins Dina parce qu'elle fait pas de télévision. Mais on est aussi dans une société et dans une sphère, et particulièrement sur Internet, où les gens sont... Certaines personnes sont vraiment très, 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 très méchantes. Il y a beaucoup d'individus qui tirent un plaisir véritable dans l'avilissement d'autrui et dans la capacité à le blesser. C'est un truc que je trouve surréaliste, moi. Je trouve vraiment surréaliste la démarche d'aller écrire quelque chose de négatif à l'égard de quelqu'un. Je trouve ça surréaliste. C'est-à-dire que moi, quand ça ne me plaît pas, je ne commente pas, je me désintéresse. Mais il est complètement surréaliste pour moi d'éprouver un certain plaisir à faire du mal à autrui. Enfin, c'est lunaire. Pour moi, c'est lunaire. Mais c'est très courant et je suis, étant quelqu'un de très caricaturable, pour plein de raisons, parce que j'ai un accent particulier qui n'est pas l'accent belge, mais qui est un accent de quelqu'un qui est passé d'un pays à l'autre et qui est une sorte d'accent indéterminé. J'ai une sorte de propension à être un peu velours, un peu trop à certains moments. Enfin, j'ai plein de choses qui sont très caricaturables. Et c'est le jeu de beaucoup de gens de faire du mal à ceux qui sont identifiables, parce que c'est plus facile. Donc ces personnes-là doivent particulièrement se protéger. Et j'ai appris à me protéger et à faire la part des choses entre les critiques pertinentes et celles qui ne le sont pas. Et Dina, c'est la quintessence de la pertinence, quoi. Parce que c'est juste de la bienveillance mêlée à un sens de l'art à toute épreuve. Donc j'ai de la chance. Voilà pour le laïus.
Mais déjà, c'est gentil, merci beaucoup. Mais je pense que je sais tellement qu'elle n'est pas grande, elle est immense, en fait. Non, mais c'est vrai, je dis pas ça pour te, je dis pas ça pour te faire plaisir, je le sais tellement que j'ai envie que... Déjà, beaucoup de monde le voit, mais j'ai envie que tout le monde le voit et qu'elle aille au maximum de ses capacités qui sont infinies, en fait. Je le sais. Et outre ça, pour reparler des gens qui mettent des mauvais commentaires, pour les gens qui critiquent, moi non plus, je comprends pas. Et je suis moins mesurée que toi. Moi, je suis à deux doigts de créer un faux compte pour aller insulter tous les gens qui disent des trucs en dessous de tes vidéos. Mais c'est, je pense, parce que les gens se rendent compte qu'elle est grande, en fait. Qu'elle a un potentiel encore plus énorme que ce qu'elle nous montre. Les gens le savent. Et malheureusement, il y a des gens aigris, méchants, jaloux, bah, qui veulent qu'une chose, c'est peut-être qu'elle ne réussisse pas ou que tu les ramènes à ce qu'ils ne sont pas.
Oui, ou parce que en fait, c'est des gens qui ont fait... parfois aussi, c'est comment dire, des personnes qui ont raté des choses ou qui n'ont pas osé ou qui n'ont pas réussi à faire ce qu'ils auraient envie de faire. Et quand ils voient les autres y arriver, ça les agace. Et donc, ils se disent, mais ok, donc cette fille-là, elle va réussir à faire un truc que moi, je n'ai pas osé faire. Mais il n'y a pas de raison qu'en fait, elle arrive à quelque chose que moi, je n'ai pas fait. Donc, du coup, ça déclenche... c'est pas de toi qui parle, en fait, il parle d'eux, tu vois. C'est un truc assez psy.
Il y a des raisons. Elle a du talent, elle travaille comme une dingue.
C'est très important quand on soulève ce genre de choses de ne pas oublier de faire part de la gratitude, ouais. Ne serait-ce que cosmiquement. Je suis immensément heureuse de rentrer en connexion avec des âmes merveilleuses tous les jours, qui sont sensibles à mon art,
qui sont plus nombreuses finalement.
Ouais, mais on les voit moins, et enfin on a une propension à être dans un état de sérénité succinct par rapport à la détresse que peuvent apporter des commentaires négatifs, ce qui est absolument idiot. Et moi je suis en fait c'est ça qui nous tient, quoi. C'est ça dans l'art qui nous permet de rester en vie, de rester en vie artistiquement, de rester alerte. C'est le fait qu'un jour, tu te réveilles et tu as 2, 3, 4 messages de personnes qui te disent que tu les as accompagnées et que durant un bref instant, tu les as sauvées d'un sentiment de désarroi ou de détresse. Enfin, ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau qui soit, au-delà du prestige social, au-delà de... Parce que évidemment que notre aspiration, c'est de vivre de ce qu'on fait. Donc, moi, aujourd'hui, j'en vis. Mais je ne sais pas si je pourrai encore en vivre dans un an.
Bien sûr, ouais.
Donc, il y a une sorte de précarité. Et je pense qu'au moment où tu as une assise suffisante pour te dire « Je peux me projeter dans 5 ans et manifestement, avec mon art, de mon art, je pourrai encore vivre. » Là, c'est ça la réussite en tant que telle. C'est de se dire « Ok. » Enfin, de la réussite factuelle par-delà la dimension spirituelle, c'est de se dire « Ok,
je suis sereine sur ça.
Je suis sereine sur le fait que je pourrais vivre de mon art. » Mais ce n'est pas la quête, c'est le but factuel. Et c'est deux choses différentes. La quête, c'est la rencontre des âmes. Les personnes qui font ça pour le but factuel au lieu de le faire pour la quête n'ont rien compris, j'en suis persuadée.
Je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire que tu le fais pour la quête, mais derrière, tu as quand même le factuel qui compte forcément parce que c'est ton quotidien aussi.
Ouais. Et alors, mais ça ne doit pas prévaloir.
Non, je comprends.
Il y a plein de gens pour lesquels ça prévaut.
Exactement. Et c'est toujours ce qu'on dit, nous, sur la création de notre entreprise. Donc, on n'est pas artiste, on est entrepreneur.
Vous êtes créateur. Mais quand on est... Je te coupe parce que je trouve que c'est important. À la différence des autres entrepreneurs, vous êtes des créateurs.
C'est adorable.
Et pour moi, ça, c'est
Parce qu'on a cette quête. Parce que
des
vraiment,
émotions, notamment.
On a envie de ça. On a envie de ça. Et si tu veux, tu as ce côté factuel derrière, où justement, tu sais, nous, on était... parce qu'on est... tu vois, ça va être mon côté complexe. On est un petit peu plus âgés que vous ne l'êtes toutes les deux. Et donc, tu sais, il y a ce côté, quand on crée une entreprise et qu'on a un certain âge et qu'on est un petit peu installé avec des contraintes, tu sais, familiales, etc. On a des métiers qui payent très bien et que tout le monde peut nous envier. Mais en fin de compte, on n'a pas cette quête. Ouais. Et en tout cas, ça ne nous correspond pas. Et donc, on se dit, OK, on va créer notre entreprise et on va faire quelque chose de nouveau et on prend le risque de créer un truc aujourd'hui. Tu es quand même toujours dans ce que tu disais, ce manque de sérénité sur OK, est-ce que dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, on va réussir à vivre de ça ? Est-ce que les gens vont assez nous comprendre ? Est-ce qu'on va être assez reconnus pour pouvoir vivre de ça ? Et je pense que le jour où tu as cette quête et que tu arrives en plus à vivre de ça, c'est super. Tu as quand même un alignement. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Mais ouais. C'est que tu as un alignement sur la vie que tu peux mener et ce que tu es. Et tout est aligné, tu vois, c'est magnifique. C'est une très belle quête. Exactement.
Mais je pense que c'est pas que dans le milieu de l'art ou de la création, tout ça. Hein. Genre je suis persuadée qu'il doit y avoir des boulangers qui rêvent de faire la meilleure baguette et d'avoir le plus de clients possible. Mais justement, ils auront le plus de clients possible parce qu'ils font la meilleure baguette aussi, je pense.
C'est ça, donc, et parce qu'en fait, ils ont mis toute leur âme dans le pain qu'ils produisent tous les jours.
D'où l'intérêt de faire la plus belle œuvre possible ou la plus belle création possible. Avec ce qu'on a, ce qu'on fait, notre travail, notre âme, nos émotions, nos tripes. Je pense que c'est le départ.
Et alors cette rencontre et cet art, alors ça fait quelque chose que vous allez créer ensemble ou pas ? Est-ce que vous avez un tease là-dessus ?
Je pense que ça se
fera. Il y a quelque chose à faire, c'est
obligé. Je pense que ça se fera. En tout cas, on en a l'envie. Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose dans la musique parce que Safia chante très bien. Elle commence à poster des petites vidéos. Enfin, une petite vidéo pour l'instant au moment où on parle. Et je pense que je vais réussir à la travailler au corps pour qu'on fasse une chanson ensemble. On finira par le faire.
Ce serait chouette parce que ça veut dire que là, on s'est vu il y a un an avec Safia, avec plein de projets. Là, on se revoit un an après avec un nouveau projet. Ça se trouve, dans un an, on se revoit et vous avez fait une chose ensemble. Ce serait énorme. Ce serait chouette.
Disons que c'est une des seules personnes devant laquelle j'ose chanter. Donc si elle arrive à me pousser à chanter devant des gens, ce serait encore plus extraordinaire.
Mais alors, le vrai sujet, ce serait dans ces cas-là, qui va écrire ?
À co-écriture. Ah, ça, c'est une certitude.
Super. Ça veut dire que vous écrirez à quatre mains ça, sur ça.
Je ne sais pas si on chantera un jour parce que moi, j'estime que j'ai une voix très relative. Mais par contre, co-écrire, ça, on le fera. Super. Ça, c'est super. Une certitude. Vraiment, je suis... Moi, au-delà de sa voix magnifique, son incarnation, son interprétation, je trouve qu'elle a une plume absolument fantastique. Et j'apprends beaucoup de sa façon d'écrire. Et je serais ravie qu'on co-écrive, vraiment.
Et oui. Alors, nous, sur ce podcast, en général, on le conclut en posant une question à nos invités. Quel est votre demain ? Parce qu'on aime beaucoup poser cette question d'une projection, comment on voit notre demain. Et là, du coup, j'ai presque limite envie de dire, oui. Ok, dans un an, vous en êtes tous les filles, alors ?
Ensemble
ou l'une et l'autre ou...
Bon, ça ensemble, en tout cas. Mais écoute, je sais pas ce que j'avais... Je ne sais pas quelle avait été ma réponse l'année dernière... Donc, je ne préfère pas trop m'avancer, j'espère juste que je ferai de l'art. Et je pense que c'est ce que je t'ai dit l'année dernière aussi. C'est ma seule quête, ma seule aspiration et mon seul devenir en bonheur.
Et toi ?
Mon demain, donc si on se reparlait dans un an, c'est ça ?
Ouais.
Après, moi aussi... Faire toujours de l'art, mais ça j'en doute pas, parce que je pense que c'est qu'une question de choix, hein, de faire de l'art, quel que soit, en vivre ou pas en vivre. Non mais, c'était pas pour te casser, désolée. Mais moi j'ai un petit objectif qui prendra je pense plus d'une année, et qui prendra que je ne réussirai peut-être jamais, ou peut-être un jour, mais j'ai envie d'écrire la plus belle chanson, ou une des plus belles chansons qui soit, j'ai envie d'écrire une vraie œuvre en fait, et de faire quelque chose qui compte. Oui, mais je pense que j'en suis...
Une chanson, tu veux dire, qui soit répertoire. Une de ces grandes chansons qui marque
l'histoire
de la chanson française.
Que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, j'ai envie d'écrire une grande chanson. Et je pense que c'est un travail qui s'arrêtera jamais. Parce que même Gainsbourg disait de ses propres chansons qu'il en avait écrit très peu de très grandes. Donc qui suis-je pour vouloir prétendre à ça ?
Puis parfois, en plus, la très grande chanson, c'est pas celle que l'artiste a choisie.
Non.
Parfois, on se dit, ça, c'est une grande chanson. En fin de compte, c'est une autre chanson, tu sais pas pourquoi, qui devient...
Oui, c'est ça. Ouais, après, l'aspect tube, pour moi, c'est différent. Tu vois, je suis pas dans la recherche d'écrire un tube.
Vraiment, la grande chanson, comme La vie en rose d'Edith Piaf.
Exactement. Quoi. Et s'il faut qu'elle soit écoutée par 5 personnes, elle sera écoutée par 5 personnes. Mais j'ai envie, moi, de... C'est un challenge personnel. Et voilà, si ça pouvait être mon demain, ce serait cool. Si c'est mon après-demain, c'est cool aussi. Et si c'est mon, ma décennie prochaine, ce sera ma décennie prochaine, écoutez. Mais on verra. Et être toujours entourée de personnes fabuleuses comme la jeune dame à côté de moi.
Être ensemble, quoi.
La très jeune dame à côté de moi.
Merci les filles, beaucoup pour cet instant partagé.
Merci à toi. Merci à toi.
Salut, c'est Dina pour les Nodes et Live Sessions.
Tu es l'enfer, tu es le paradis, une dose chimère. Les soirs d'insomnie, l'amertume qui laisse un goût sucré brûlant l'hiver. Enneigé l'été, l'éclat de rire. Après l'éclat de pleurs, une agonie. Qui soigne l'intérieur des mots qui la serrent. Un souffle qui caresse un dernier verre. Avant les promesses. Saint-Germain se balade dans. étrangèrement se balade dans mon cœur.
Dans mon cendrier, des restes de toi. Sur mon oreiller, des restes de moi. L'amour, l'amour, c'est être là. L'amour, c'est être là. L'amour. Et si les roses se fanent dans mes mains, je retournerai flâner à Saint-Germain. Et si les roses se fanent moi demain, je resterai dormir à Saint-Germain. Salut, c'est Dina pour les Nodi Live Sessions.